Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne.
Alors, nous revoilà les vieux fourneaux et nous allons écouter maintenant des interviews que nous avons faites à la Clé des Ondes devant le rectorat de Bordeaux le jeudi 15 février à l'appel des fédérations de parents d'élèves. Un fait d'ailleurs tout à fait inédit, les trois fédérations étaient là pour demander qu'on arrête avec le choc des savoirs ou plutôt l'échec des savoirs et nous allons écouter. Bonjour Margot, on est devant le rectorat de Bordeaux, vous êtes à la FCPE et enseignante.
Alors non, je ne suis pas à la FCPE, mais je suis enseignante et je soutiens donc l'appel des parents de la FCPE de mon établissement. Nous sommes ici pour protester contre la réforme dite du choc des savoirs, proposée par l'ancien ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, le 5 décembre. Nous sommes farouchement opposés à cette réforme pour de multiples raisons. La première des raisons est qu'elle entérine la suppression d'une heure de cours pour tous les sixièmes. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dès la rentrée, tous les élèves de sixième auront une heure d'enseignement en moins par semaine. Ce qui veut dire qu'ils n'auront plus que 25 heures de cours. Pour vous donner une idée du nombre d'heures qui, année après année, a été grignoté, eh bien, on peut tout à fait imaginer qu'un élève de sixième puisse avoir une journée entière libérée dans son emploi du temps. Nous avons des 32 heures par semaine dans l'emploi du temps. Nous sommes également farouchement opposés à cette réforme à cause de la mise en place des groupes de niveau. Idéologiquement, cette réforme nous heurte moralement, puisque nous refusons de classer nos élèves, de les trier et de les séparer entre bons, moyens et élèves en difficulté.
Alors en fait, c'est comme un sabordage de l'enseignement public que vous trouvez là dans cette réforme ?
Complètement, c'est un sabotage de l'enseignement public, c'est aussi une vision de la société et du projet de vie en société qui nous heurte. Pour nous, faire société, c'est faire société tous ensemble. Nous sommes pour la mixité sociale, pour la mixité aussi en termes de niveau scolaire. Les élèves progressent dans l'entraide, dans la découverte et l'apprentissage de l'altruisme. Et il me semble que cette réforme va aboutir à une ségrégation sociale.
La ségrégation, elle va toucher les élèves des quartiers populaires qui sont déjà en difficulté à cause de leurs difficultés sociales. Elle va toucher les enfants porteurs de handicap. Elle va toucher les enfants d'origine étrangère. C'est ça que vous dénoncez dans le fond ?
Tout à fait, on dénonce ce qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire de classer et de trier les élèves. Mais nous dénonçons également la grande désorganisation induite par cette réforme au sein des établissements. Pour vous donner une idée, dans mon établissement, le projet est d'aligner 5 professeurs de français et 5 professeurs de mathématiques sur toutes les heures de cours. Ça va dégrader considérablement nos conditions de travail, les conditions de travail des élèves. On va perdre ce qui est, je pense, le plus précieux aux yeux d'un enseignant, à savoir sa liberté pédagogique. Nous serons tenus d'étudier les mêmes œuvres en même temps, etc. etc. Mais cela va également rompre l'équilibre de l'élève qui, 9 heures par semaine, ne sera plus dans un groupe classe, mais sera dans un groupe de niveau. Ce qui veut dire que pour chaque sixième, il y aura 5 professeurs de maths et 5 professeurs de français qui interviennent. Nous ne pourrons donc plus assister au conseil de classe, puisque nous n'allons pas débarquer à 10 pour les conseils de classe. Or, un conseil de classe sans professeur de mathématiques et sans professeur de français, il me semble que ça pose question.
C'est une véritable remise en cause aussi de la liberté pédagogique et des projets innovants qui pourraient voir le jour.
Et projet innovant ou pas innovant d'ailleurs, projet tout court, car nous ne pourrons désormais plus travailler, notamment avec nos collègues professeurs d'histoire, avec qui nous avons l'habitude de travailler en quatrième sur la justice, sur l'esclavage. Tous ces projets que nous menions de front collectivement, eh bien, ne pourront plus voir le jour, puisque nous n'aurons plus les mêmes élèves.
Vous demandez depuis longtemps des créations de postes, de travailler en petits groupes, de permettre aux élèves en difficulté justement d'avoir un accompagnement. Vous pensez que cette réforme, elle va vraiment à l'opposé de ça ?
Alors, elle va complètement à l'opposé de ça, puisque nous avions... le nombre d'heures de français accordées chaque semaine à un élève, a fortement diminué. Mais nous avions encore, jusqu'à cette année, une heure en demi-groupe par quinzaine pour tous les élèves de 6e, 5e, 4e et 3e dans mon établissement. Nous avons dû rendre ces heures de marge pour financer la mise en place des groupes. Et il faut savoir que c'est un abus de langage, en fait, de parler de groupe, car dans mon établissement, par exemple, nous avons des effectifs tels que les élèves seront 15 dans le groupe des élèves dits en difficulté. En revanche, ils seront 26 ou 27 dans les autres groupes. Donc c'est pas un groupe, et il me semble qu'un bon élève, un élève dit moyen, eh bien, a tout autant besoin que les autres de cours en demi-groupe, d'autant plus qu'en français, nous abordons des choses très complexes comme les propositions subordonnées, la voix passive, etc., qui nécessitent d'avoir les élèves en petits groupes pour pouvoir les aider au mieux à aborder ces notions complexes.
Merci beaucoup, Margot.
Merci.
Bonjour, Corinne Deveau, vous êtes représentante de la FCPE en Gironde. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce rassemblement devant le rectorat aujourd'hui ?
Alors, nous sommes ici, les trois fédérations de parents d'élèves les plus importantes se sont réunies pour dire ensemble qu'elles n'étaient pas d'accord avec ce qui est en train de se mettre en place du point de vue des groupes de niveau en collège. Nous trouvons que ces mesures sont stigmatisantes pour les enfants et vont à l'encontre de tout ce qui est mis en place, tout ce qui a été mis en place jusqu'à présent, pour faire évoluer chaque élève de façon positive. Et de façon le plus égalitaire possible. Ça met en place un tri social et on est absolument opposé à ce genre de choses. Et il faut vraiment mettre en perspective le fait qu'il est très rare que les trois fédérations de parents d'élèves soient d'accord. Et là, nous portons tous ensemble cette problématique de rejet du choc des savoirs.
Donc là où vous en êtes, c'est que vous dites que pour des parents dont on va leur dire que leur enfant est dans le groupe de niveau le plus faible, il va y rester toute sa scolarité ?
Non, on est en train de dire que le rectorat et le ministère nous ont expliqué que ce ne serait pas le cas, qu'il y aurait une des possibilités de monter, de descendre de ces groupes de niveau, sauf que ce qui est prévu, c'est un groupe à 15 à 17 élèves qui ont plus de besoins, un groupe moyen à 25 élèves, et tous les autres groupes on divise le nombre d'élèves qui restent avec le nombre de classes, et tous les autres groupes seront à 29, 30 élèves, et en définitive, des classes hétérogènes qui sont en 6e à 24-25 élèves vont se retrouver, même pour les groupes ceux qui ont le moins de besoins, c'est-à-dire des meilleurs entre guillemets, ils vont se retrouver à 29-30 élèves. Donc ça sera des conditions d'apprentissage qui seront terribles pour tout le monde. Et puis toutes les études ont démontré que ces groupes d'élèves mettre en place des groupes par niveau n'est profitable à personne, ni pour les mauvais, entre guillemets quand je dis mauvais, ni pour les élèves qui ont plus de facilité, que ce soit en mathématiques ou en français. Et la problématique supplémentaire, c'est que ces enfants sont stigmatisés, donc ils vont arriver de l'élémentaire en ayant comme notation uniquement des petits bonhommes qui sourient, des petits bonhommes qui font la tête. D'un seul coup, ils vont se retrouver dans le groupe des mauvais ou dans le groupe des moyens ou éventuellement dans d'autres groupes. Mais ce sont des conditions terribles pour rentrer dans le collège et pour être bien dans sa peau. Nous, on a vraiment peur que tous ces élèves-là aient besoin davantage d'aller voir le psy, ce qui se passe maintenant pour le lycée. Donc ce qui s'est passé pour le lycée est en train de se mettre en place pour le collège. Et en tant que parents, ça nous terrifie. Donc on nous a expliqué exactement ce qui allait être mis en place. Hein. Mais on s'inquiète également des moyens, parce que tout ça est fait à moyens constants, alors qu'on a besoin, on aurait besoin de plus de professeurs. Où est-ce qu'on va trouver les professeurs pour être devant les élèves en français et en maths, eh bien, il va falloir qu'on cherche. Alors, j'ai fait ma petite liste là. Ça va être des professeurs des écoles qui vont être mobilisés dans le cadre du pacte. Ça va être des enseignants volants. Vous imaginez bien qu'un enseignant qui va être sur 3, 4 ou 5 écoles, parce qu'il manquera des heures d'un côté, il manquera des heures de l'autre, va être moins motivé et ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de travailler. Ça va être peut-être des étudiants en cours de formation, des contractuels, enfin on en a de plus en plus de contractuels, peu ou mal formés. Et on a eu un vrai problème de recrutement des enseignants, notamment en mathématiques, mais aussi en français. Comment faire pour rendre la profession attractive dans ces conditions? Qui a envie d'y aller? Enfin, voilà, c'est...
Alors, vous avez demandé une audience?
Nous demanderons une audience une fois que les décrets sont sortis. Nous avons déjà eu une audience, c'était fin janvier, début février, et Madame la rectrice nous a expliqué ce qui allait être mis en place. Et à partir de ce qui a été dit, nous avons fait une analyse et nous en avons conclu que c'était pas quelque chose qui était bénéfique pour l'ensemble des élèves et que surtout ça stigmatisait les élèves et puis également il y a ce problème de moyens qui sont moindres ou constants alors qu'on aurait besoin de plus de professeurs, on aurait besoin de qu'on donne plus de moyens à l'éducation nationale.
Je vous remercie beaucoup. Alors, je suis avec le représentant de l'UNAAP. Monsieur, vous êtes ici aujourd'hui avec les autres fédérations. Pour quelles raisons ?
Bien parce que, encore une fois, une réforme qui a été mise en place sans l'avis des parents, sans l'avis des enseignants. Et on a passé plus en priorité, encore une fois, les finances, la réduction d'enseignants, les classes surchargées. Et puis surtout, nous, quand on veut lutter contre le harcèlement, je crois que le harcèlement va s'agrandir, au contraire, avec cette nouvelle réforme. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'en fin de compte, il va y avoir une classe de bons, une classe de moyens, une classe de mauvais. Et déjà qu'il y a une différence entre les enfants, je ne vous dis pas la suite qu'il va y avoir. Et eux qui parlent souvent de vraiment démocratie, de laïcité, qui parlent tout le temps le ministère de laïcité, où est la laïcité là si on commence à classer des enfants qui arrivent en plus d'école primaire. Donc déjà, sixième, c'est déjà une autre catégorie. Si en plus on commence déjà à les classer par catégorie dès la sixième, ça va être difficile.
Donc ce projet est ségrégatif et il ne répond pas du tout aux demandes des parents concernant l'enseignement.
Non, absolument pas. Et puis moi, bon, en tant que vice-président national, plusieurs ministres là, qui nous ont reçus tour à tour nous demandent notre avis, mais en fin de compte, on n'est pas du tout écoutés, quoi. Les parents, et pour une fois, et c'est très bien, et le ministère de l'Éducation nationale devrait faire attention, parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a tous les syndicats, mais il y a aussi toutes les associations de parents d'élèves, parce qu'on est tous avant tout des parents d'élèves, qu'on soit FCPE, PEP, UNAP, et donc on est vraiment tous unis, et tous, on parlait tout à l'heure, on croule vraiment sur les demandes, faites quelque chose pour arrêter, il ne faut pas, il ne faut pas. On a vraiment une demande très très forte pour la première fois, je dis, des parents d'élèves qui ne veulent absolument pas de cette réforme.
Eh bien, on espère qu'après les vacances scolaires, votre mobilisation va continuer.
Je pense qu'elle va, non seulement elle va continuer, mais elle va s'amplifier aussi, parce qu'il n'est pas possible, de classer des enfants comme ça, par catégorie, bon, moyen, mauvais. Vraiment, il n'y a plus l'égalité des chances, et on est très loin des valeurs que porte la laïcité. Voilà.
Vous pouvez nous rappeler votre nom ?
Je m'appelle Jean-François Trapi, je suis président de l'UNAP Aquitaine et vice-président national.
On vous remercie beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
شعل شفت البلد.
Delanne.
Bonjour.
Alors là, c'est une très mauvaise nouvelle qui est tombée. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné l'expulsion de ton association, qui est le Cercle de Pompéjac, autrement dit le Cercle d'Oupaïs. Et donc, vous êtes sous le choc.
Tout à fait, tout à fait. On n'espérait pas une issue, cette issue-là, parce qu'on avait des arguments qui faisaient qu'on pensait que la mairie serait déboutée. Et on est sous le choc parce qu'effectivement, c'est un lieu de vie qui va disparaître, qui a commencé à être reconnu dans ce giron. C'est un gâchis, en fait. Pour nous, c'est vraiment un gâchis.
Alors, ce conflit, en fait, il est plutôt idéologique, on va dire, puisque, en fait, ce qu'on vous reproche au cercle, c'est d'avoir pris des initiatives du genre... groupe de parole non mixte. Les arguments de la mairie sont quand même assez spécieux, oui. Quoi, on va dire.
Oui, le dernier argument qui est paru dans le journal, donc ça doit être samedi, je crois. Alors là, c'est complètement hallucinant. Là, moi, les bras en tombent quand j'ai lu ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment il a pu chercher des trucs comme ça? Parce que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Alors, je pense qu'il a voulu faire allusion à une soirée qu'on fait. On fait depuis le début, on fait des soirées débats sur tout un tas de thèmes. Et on a institué une soirée qui revient tous les mois, le deuxième vendredi du mois. Dans le prochain, ça sera le premier vendredi du mois. Donc, on se retrouve pour parler dans féminisme, ce qu'on appelle caféminisme, mais pour parler donc sur les inégalités entre hommes et femmes. Mais c'est une soirée qui est ouverte à tous et à toutes. Et là-dedans, on a pas autant d'hommes, quand même pas, mais on a des hommes qui participent, on en a 4-5 depuis le début, enfin, qui viennent régulièrement. Et voilà. Et donc, on n'a jamais fait de groupe de non-mexités qui sont interdites aux hommes. Mais vraiment, enfin, ça me ferait rire si ce n'était pas dans cette situation-là. Mais je dis, mais c'est complètement fou d'avoir trouvé... Trouver des arguments comme ça, on dirait qu'ils raclent les fonds de tiroir, quoi.
Alors, en plus, ce qui est grave, quand même, c'est que ça va mettre en péril deux emplois que vous aviez pu mettre
en place. Alors, parce que c'est vrai que notre projet, il était quand même sur plusieurs dimensions. Et entre autres, on voulait participer à l'emploi local. On voulait essayer de faire, c'est-à-dire qu'on fait toujours intervenir des gens qui travaillent dans le coin. Et on avait l'idée de créer des salariés pour pouvoir participer aussi. Et on était en train après le Covid et tout ça, on était en train de redynamiser un petit peu l'association qui avait pris un coup quand même le Covid. Et on avait donc embauché deux personnes, un coordinateur et puis une personne qui faisait deux fois par semaine, qui tenait une cantine, on disait un restaurant, une petite restauration le midi. Et donc elle n'a pas voulu continuer, c'était un emploi aidé qu'on aurait pu continuer un petit peu, mais bon, la situation a fait qu'elle n'avait pas trop envie d'être dans cette situation-là. Et puis notre coordinateur, on va être obligé de le... Enfin, ça y est, on a commencé à le licencier, parce que on aurait voulu pérenniser cet emploi. Mais du coup, à cause de cette histoire, on ne peut pas, parce qu'on avait espéré avoir d'autres aides pour pérenniser l'emploi, justement, par le conseil départemental. Et évidemment, on ne les a pas eues. Alors que le conseil départemental nous suit depuis le début, et ainsi que la région, la région Nouvelle-Aquitaine nous suit, enfin tout le monde nous suit. Et puis voilà, là, tout est foutu en l'air.
Alors, il faut aussi dire que votre association, elle avait quand même 260 membres. Et qu'il y avait peut-être aussi une influence sud-gironde, on va dire, avec des projets et des idées qui ne correspondaient pas ou qui ne cadraient pas vraiment avec ceux de M. le maire.
Oui, très certainement, et c'est ça, parce que tout à fait, c'est un projet qui partait alors avec, qui était axé sur la transition écologique, sur les échanges, sur les discussions, sur les débats. On a fait des conférences, on a fait des